consacrer quelques séances à du Midrash, Midrash Rabbah. Je voudrais voir avec vous le Réchit Rabbah Parcha 7, 9e. En fait, probablement, il doit y avoir la traduction parce que cette partie-là, elle a été traduite chez Verdier dans le Midrash Rabbah. Il doit être par là, donc on pourrait faire des photocopies, mais je n'ai pas encore trouvé. Oui, il y a plusieurs, mais c'est dans le premier tome. Il y a deux tomes, je crois, qui sont parus chez Verdier. C'est dans le premier. Alors, comme vous savez, la phrase de la Torah sur laquelle est construit le Midrash, c'est Vayar Elohim et kol asher asa vehineh tov me'od. Donc, Hachem a regardé tout ce qu'il avait fait, et voici, tov me'od, c'était très bien, très bon. Alors, avant de commencer à regarder ce que dit le Midrash, on est ici dans la création, donc le nom divin qui est utilisé, c'est Elohim. C'est donc la Midata Din. Ensuite, il a regardé tout ce qu'il avait fait, et voici, ça veut dire que, quand on utilise et voici, ça veut dire que quelque chose de nouveau apparaît. D'accord? Et voici. Iné, c'est quelque chose d'inattendu. On n'attendait pas parce qu'on s'attendait, au contraire, mais parce que c'était pas, pour l'instant, c'était pas encore, on n'a pas enregistré que c'était très bon. Ça va se présenter comme étant très bon. Alors, sur ce qu'il avait ce qu'Hachem avait fabriqué auparavant, chaque jour, c'était marqué plutôt Tov. Vinet Tov. C'était Tov. Maintenant qu'on a la totalité, on est à la fin, c'est Tov Me'od. Alors, il y a des mefarshim qui se posent donc la question, qu'est-ce que ce Tov Me'od ajoute? Quelque chose qui a été créé par Hachem, bon voilà, c'est là. C'est là. Qu'est-ce qu'apporte le Tov Me'od? Alors certains lisent, on verra peut-être si on trouve des confirmations dans le Midrash, certains lisent que sans le Tov Me'od, la chose n'aurait pas duré. Quand Hachem crée, il crée quelque chose qui est, mais qui ne dure pas obligatoirement. Et c'est quand il considère que c'est Tov, et encore plus quand c'est Tov Me'od, alors ça dure. Ce doublet, on le trouve dans ce que nous disons régulièrement sur David Ameler, David Ameler, qu'il est Chai Vekayam. Chai, ça veut dire qu'il est vivant, et Kayam, c'est que ça dure. Et chez David Ameller, c'est très très clair, puisque David Ameller, quand il est né, il était créé, il n'aurait dû vivre que 3 heures. Et c'est Adam Harishon qui lui a donné 70 ans de ses 1000 ans. Il avait 1000 ans, il n'a vécu que 930 ans, Adam, parce qu'il a donné à David 70 ans. Que d'une certaine manière, quand Adam donne à David, c'est pas complètement donné à quelque chose complètement extérieur, parce que les lettres qui composent le mot Adam, c'est Aleph Daled Mem, et Aleph c'est Adam, de Adam, Daled c'est David, et Mem c'est le Mashiach. Donc ça c'est juste des éléments pour commencer. Alors voilà ce que dit le Midrash. Donc il va y avoir, c'est toute une paracha du Midrash, comme d'habitude, quand on prend une paracha du Midrash, on va voir. Personnellement, je pense que quand le rédacteur du le ou les rédacteurs du Midrash, ils ont composé quelque chose. C'est pas simplement des morceaux qui ont été mis côte à côte, etc. Et très souvent, les gens qui expliquent le Midrash, ils expliquent un morceau du Midrash et même donc un paragraphe du Midrash dans une paracha. Ici, j'ai pris l'habitude de n'expliquer le Midrash que en prenant en tout cas une paracha entière. Il me semble que ça exprime une construction de la part du ou des rédacteurs du Midrash. Alors, ça commence comme ça. Rabbi Lévi, Bechem Rav Chama bar Chanina Patach. Alors, le Midrash Rabbah, il commence presque toujours comme ça. Il y a un maître on va discuter d'un passouk dans Bereshit, et un maître commence par un passouk en général, de Ktuvim, c'est-à-dire en général de Michelet ou de Tehilim ou de Iov. Il va interpréter ce paragraphe, travailler sur ce passouk, pardon, du Nard, en l'occurrence de Ktuvim, seulement. Et ensuite, il va appliquer ça à notre verset de la Torah. Donc, c'est pour ça que, au Patach, il a ouvert la discussion en citant un passouk dans Michelet. Un passouk qui est assez connu dans Michelet, qui dit: Kvod Elokim Aster Davar. Kvod Melachim Chakor Davar. Alors, ici, évidemment, on parle d'un verset le verset de la Torah, il parle, je répète, enfin, vous savez, on parle d'un regard de Elohim sur la totalité de ce qu'il a créé dans les Sheshet Yemei Bereshit, dans le Maaseh Bereshit, l'œuvre du commencement. Il porte un regard sur cette œuvre du commencement. Donc, on pourrait penser, effectivement, c'est quelque chose qui concerne que Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui regarde ce que lui a fait. Donc, on comprend bien que ce soit de l'ordre du Aster David, Aster Davar. On va cacher la chose. Aster, oui. Aster, c'est comme Esther, Esther Panim. Esther, ça veut dire cacher la chose. Alors que Kvod Melachim, alors le mot Melachim ici, il veut dire la Torah. On verra après pourquoi, mais ça veut dire la Torah. Donc le reste enfin toute la Torah, ça fait l'objet des chakirot, ça fait l'objet de discussions, de tentatives de comprendre en profondeur, etc. Donc, même d'emblée, là, on pourrait penser que notre verset, le verset avec lequel il a ouvert, c'est un verset qui marche bien. La première partie du verset, il parle de Aster Davar. Donc, il faut cacher les choses. Ça, c'est la gloire d'Elohim. Kvod Elohim, Aster Davar. Pourquoi? Parce qu'on parle éventuellement de ce qui a été créé pendant les Sheshet Yemei Bereshit. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui porte un regard sur ce que lui a créé, alors que dans la deuxième partie, Kvod Melachim, ça veut dire le kavod ici de la Torah, c'est Chakor Davar. Il faut être choker. Il faut creuser, il faut faire des recherches. Bon, ça c'est, si vous voulez, un premier regard sur l'utilisation pour qu'il commence à travailler avec ce verset-là de Michelet. Alors, Rabbi Lévi qui a commencé, maintenant, qu'est-ce qu'il en fait de ce verset? Il dit, au nom de Rabbi Chama bar Hanina, Amar, Mitrilata Sefer Veatkan, depuis le début du livre, donc depuis Bereshit, jusque Veine Tov Meod, là où nous en sommes, Kvod Melachim, Kvod Elokim, Aster Davar. La gloire d'Elohim, c'est de cacher la chose. Et Kanvei là, à partir de là, Kvod Melachim, Chakor Davar, Kvod Divrei Torah, Shenim Shelu, Bamalachim. Comme c'est marqué dans le passouk, justement, dans Michelet, c'est marqué Bi Melachim Imlochu, c'est l'Arkor Davar. Bi Melachim Imlochu, ça veut dire avec moi, c'est de la Torah, avec la Torah, les rois vont régner. C'est la première chose de. Premier enseignement de, je peux pas dire là, ouais. Premier enseignement de Rabbi Lévi. Il utilise le verset de Michelet pour y voir un peu plus clair dans le verset de Bereshit. Et il dit, c'est ce que nous, ce que je prends l'outil Michelet pour interpréter mon verset, et ça me permet de le lire en tant que Kol Asher Asa, tout ce que Hachem a fait jusque-là, donc c'est ce qui est rapporté depuis Bereshit jusqu'à maintenant. Ça c'est Aster, alors, Aster, c'est quelque chose qu'il faut cacher. Alors, c'est un peu compliqué. Tu dis qu'il faut cacher quelque chose qui est explicite dans la Torah. Il dit que ce qui est écrit depuis Bereshit jusque maintenant, Aster d'avar, il faut le cacher. Et pour le reste de la Torah, c'est-à-dire tout le reste de la Torah, il va falloir travailler. Ça veut donc dire que d'une certaine manière, pour Rabbi Lévi, d'une certaine façon, on va rien dire de ces premiers psukim qui nous racontent la sortie, qui nous racontent le Maaseh Bereshit. Il n'y a rien à en dire. C'est un truc que seul HaKadosh Baruch Hu sait de quoi ça parle. Bon, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire que c'est un texte qui nous a été donné. Et lui, ici, Rabbi Lévi, il vient et dit en vérité, sur ce texte, jusque-là, on ne peut rien en faire.
Donc,
Alors, c'est, oui, ça veut dire, il n'y a rien en Aster d'avoir, ça veut dire, il faut le cacher. Alors, quand on cache quelque chose, celui qui cache, lui, il sait que c'est caché. Donc, lui, il sait ce qu'il y a. Il le cache pour d'autres. Quand on cache quelque chose, quand vous cachez quelque chose, il est à souhaiter que vous sachiez ce que vous avez caché et où vous l'avez caché. Sinon, c'est pas perdu pour tout le monde, peut-être, mais pour un certain temps, on va mettre du temps jusqu'à ce qu'on le retrouve.
Ça veut dire qu'il a caché quelque chose.
Donc, alors maintenant, Aster Davar, à qui ça s'adresse, Aster Davar? Qui est-ce qui doit cacher? A priori, le texte de la Torah, il s'adresse à nous. Quand on te dit Aster Davar, je cache quelque chose, mais je ne sais pas, je ne connais pas. Aster Davar, ça veut dire qu'en réalité, même si tu sais quelque chose là-dessus, n'en parle pas. Ça veut dire, c'est un sujet ultra délicat, ce qui est décrit là. Donc, c'est pas fait pour être mis sur la place publique. Par contre, Le reste de la Torah, c'est fait pour être développé, c'est pour être objet de recherche, etc. Donc, on va inviter tout le monde à travailler le sujet. Donc, ça, c'est la première remarque. C'est parce que Paracha. Alors, c'est curieux que le Tov Meod, c'est le Tov Meod qui correspond à Hakor Davar, n'est-ce pas? Parce que Vayar Elokim et Kol Asher Asa, voilà, c'est tout ça, ça concerne que Hachem ou des Happy Few, quelques-uns qui comprennent quelque chose. Mais ils doivent pas en parler parce que le commun des mortels, ils vont comprendre de travers. Les choses dont on ne doit pas parler, c'est pas seulement pour les cacher, pour le principe. C'est qu'en général, ce sont des choses délicates. Et si tu les mets à la portée de n'importe qui va dire n'importe quoi. Et il faut pas dire n'importe quoi sur ces choses-là. Il y a probablement des gens, par exemple, qui vont penser que, si on le lit comme ça, que ce qui est décrit ici dans ces psukim, c'est le récit de la création du monde. Et ben, c'est pas vrai. Un récit de la création du monde. Rachid dit que les crétins qui pensent que c'est la création du monde, c'est des crétins. Bon, donc, à voir, c'est pas. Alors, nous, naïvement, on pourrait se dire, oui, mais d'accord, mais qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est. Pour l'instant, je ne te dis pas. Si je sais, je ne te le dis pas. Si je ne sais pas, évidemment, je ne te le dis pas. Peut-être qu'on ne me l'a pas dit à moi non plus. OK, on va commencer comme ça. Donc, c'est intéressant que la partie, quand on dit Tov Meod, ça veut dire il faut travailler. Tov Meod, ça veut dire il va falloir Hakor Davar. Recherche, creuse, travail. OK, ça c'est un premier paragraphe. Davar acher. Autre chose. Alors il y aura plein d'autres choses, commentaires de toujours de ce même verset. Toute la paracha qu'on va voir est quasiment est consacrée à ce Tov Meod en réalité. Vayar Elokim et kol asher asa veine Tov Meod. Cette fois-ci, c'est Rav Tanhuma. Rav Tanhuma, c'est quelqu'un qui est peut-être plus connu que ce Rav Lévi, parce il y a tout un recueil de Midrashim qui s'appelle Midrash Tanhuma. C'est les Midrashim de ce Rav Tanhuma. Et là, ici, il parle, on est dans Midrash Rabba, il cite Rav Tanhuma. Alors lui, il commence, je vous ai dit très souvent, on commence par un passouk des Ktuvim, lui il commence avec un passouk de Kohelet. Kohelet, comme, non, c'est pas là, comme Shira l'a dit, Kohelet, c'est dans Kitvei HaKodesh. Ça fait partie des ce qu'on appelle les écrits saints, c'est comme ça qu'on traduit, mais c'est ce que on appelle, voilà, du monde encore, c'est ce qu'on appelle Ktuvim. La troisième partie dans Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, Ktuvim. Ktuvim, en français, ça se traduit par le joli mot qui s'appelle hagiographe. Ça, si vous voulez passer ça dans la conversation, hagiographe, bien. Alors, le passouk dans Kohelet, il dit « Et hakol asa » Yafé Be'ito. Donc Kohelet qui n'est pas spécialement optimiste, mais là il dit quelque chose d'acceptable, comme ça directement. Et Hakol Asa, il a tout fait, Yafé Be'ito. Et c'était très beau exactement au bon moment. C'est-à-dire, yafé veïto, ça veut dire, il y a des choses qui ne sont belles que si elles sont dites au bon moment. Cette même chose, si elle n'est pas dite au bon moment, elle n'est pas belle. Donc c'est très important de dire que Hachem, il a tout fait, c'était très bien en son temps. C'est-à-dire qu'il a l'air d'utiliser un verset, donc il parle de façon générale, que ce qu'Hachem a fait, il l'a bien fait en son temps. On ne sait pas, disons, on va pas ici aller regarder maintenant, pourquoi pas aujourd'hui, quel est le contexte exactement où Kohelet a dit ce qu'il a dit. Mais souvent, les phrases de Kohelet, elles sont pas obligatoires, c'est pas obligatoirement du continu. C'est des fois des phrases qui sont dites pour elles-mêmes, qui vont très bien toutes seules. Mais en tout cas, pour l'instant, nous, on l'a toutes seules. Alors, qu'est-ce que Rav Tanhouma a fait? Il faut entendre, n'est-ce pas? Il faut comprendre que l'usage de Michelet, l'usage de Kohelet ici, c'est un espèce de petit marteau avec lequel on va essayer de taper sur le passouk qui nous intéresse pour voir comment ça résonne, pour voir un peu comme quand vous avez devant vous quelque chose que vous connaissez pas, un objet, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir comment il résonne, comment il supporte l'attraction, comment il réagit comment il réagit quand on le bombarde avec ceci ou avec cela, quand on le plonge, quand on le cuit, quand on le coud, quand on le chauffe, etc. Jusqu'au moment où on aura une image assez complète de l'objet, et éventuellement on dira, ah, ben c'est très bien, quand un objet a toutes ces qualités-là, ça veut dire que c'est du cuivre ou c'est de l'azote, je sais pas, enfin. D'accord? D'accord? Pourquoi? Parce que voilà, on peut décrire un objet en disant comment il se comporte, comment il réagit, physiquement, chimiquement, etc. Et donc, il dit, Be'onato nivra ha'olam, lo haya ha'olam raouy libarot kodem lachen. En son temps, exactement à son heure, si vous préférez, le monde a été créé. Le monde n'était pas fait pour être créé plus tôt, avant cela. Amar Rabbi Abaou, Mikan, de là on déduit, chez Akadosh Baruch Hu, Haya Boré Olamot ou Machrivan. De là on déduit qu'Akadosh Baruch Hu avait créé des mondes et il les avait détruits. Boré Olamot ou Machrivan. Il crée des mondes et il les détruit. Il crée des mondes et il les détruit. Ad Shebara et Elou. Jusqu'à ce qu'il crée cela. Pour ici, Elou, c'est un pluriel, mais. Amar, et alors il a dit, Dein, Anyanli. Celui-là, il me plaît. Yaton, les autres, Lo Anyanli. Il me plaît pas. Amar, Rabbi Pinchas, Tamed, Rabbi Abaou. La raison pour laquelle Rabbi Abaou a dit ce qu'il a dit, c'est parce que c'est marqué, Vayar Elokim et kol asher asa v'hineh tov me'od, den hanyan li, yaton lo hanyan li. Alors, Pinchas dit, Rabbi Abaou, quand il a dit ça, il s'est appuyé sur le verset, sur le verset que nous étudions, Vayar Elokim et kol asher asa. Il a vu tout ce qu'il avait fait. Rabbi Abaou, il a compris. Il a vu tous les mondes qu'il avait créés. Ils étaient tous là. D'accord? Un monde, le monde numéro 1, 2, 3, 4, N. Ouais. Et puis, ceux-là. Pas pourquoi c'est au pluriel pour l'instant. En tout cas, c'est écrit au pluriel. Et il a dit, ben, ceux-là me plaisent et ceux-là me plaisent pas. Donc, Rabbi Pinchas, il pense que ce que dit Rabbi Abaou, c'est construit sur notre verset, justement. C'est parce que dans notre verset, il a vu tout ce qu'il avait construit. Pourquoi c'est marqué tout? C'est pas nécessaire de dire tout. Cette phrase, elle est dite après qu'il ait tout créé. Donc, on n'a pas besoin de dire il a vu tout ce qu'il avait créé. Il a vu ce qu'il avait créé, c'était tout. Le mot tout est en trop. Et donc de ce tout-là, dit Rabbi Pinchas, Rabbi Abaou a compris, ça voulait dire qu'il y avait beaucoup de monde et que ces différents mondes n'ont pas plu à Hachem. Et cela, je ne sais pas pourquoi c'est marqué au pluriel encore une fois, cela, Hachem a dit, cela il me plaise bien.
De la terre au ciel.
Pardon?
Cela, c'est peut-être les membres de la terre au ciel. Si c'est nous.
Peut-être, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi est-ce que bon, cela, d'habitude, le monde est toujours singulier, quoi. Même si, comme vous dites, ça va de la terre au ciel, mais. Le problème, c'est qu'en général, quand c'est dit en araméen, quand il dit Dein Anyan Li, Dein, normalement, ça veut dire Zé et pas Elou. Ça veut dire celui-ci et pas cela. Alors, certains veulent dire que la raison pour laquelle on a rendu Elou, on a dit Elo, c'est parce que c'est marqué dans le. La graphie de Hine, ça peut se dire aussi Hena. Et là, c'est un pluriel. Héna, c'est un pluriel. Comme on a dit, Hine Tov Meod, lui, il a dit peut-être Héna, cela. C'est pour ça qu'il aurait traduit, bien qu'il ait dit en araméen celui-ci, on rend compte de ce que la graphie de Hine permet de le lire aussi Héna, qui alors serait un pluriel. Alors on a écrit au pluriel. Ça, techniquement, c'est vrai. Maintenant, je ne comprends pas ce que ça peut vouloir dire. Peut-être on comprendra plus tard. Donc, qu'est-ce que dit Rav Tanhuma, si j'essaie de regarder, est-ce qu'il y a là un élément de progression entre ce que dit Rabbi Lévi, qui a dit, ben, il y a une partie sur laquelle il n'y a rien à dire. Et donc, c'est comme si lui, il disait, Rabbi Abaou, il dit, c'est comme si, c'est pas sur une partie où il n'y a rien à dire, il y a à dire que ça me plaît pas, quoi. Il veut dire, il y a une partie qui me plaît, une partie qui me plaît pas. Rabbi Lévi, il disait, il y a une partie sur laquelle il n'y a rien à dire, une partie sur laquelle il faut travailler. C'est pas la même partie, bien sûr. Et le verset, il t'indique le couple, rien à dire, tout à dire. Et ici, le couple, bah, ça me plaît pas et ça me plaît. La grande différence, c'est que dans l'explication de Rabbi Lévi, on parle d'Akadosh Baruch Hu d'un côté, et de la Torah qui est étudiée par les hommes d'un autre côté. C'est pas Hachem qui étudie la Torah. C'est les hommes qui étudient. Tandis que dans le pshat de Rabbi Tanhuma, ça ne parle que d'Hachem. C'est Hachem qui dit, ces mondes-là me plaisent pas, ceux-là me plaisent. Donc d'une certaine façon, quand Rav Tanhuma parle et Rabbi Abbahu aussi, en fait. Ils ont l'air de dire que ce verset concerne uniquement Hachem. Il ne dit rien des hommes. Alors maintenant, dans ce que nous venons de lire, il y a deux parties, n'est-ce pas? Rabbi Tanhuma, qui a dit que et à kol asher asa qui a fait Beito, qui avait utilisé le verset de Michelet, qui disent que Be'onato nivra olam, lo haya olam raoui libarot kodem lachen. Alors, ça veut dire qu'on a deux façons de dire des choses assez proches. C'est ou bien tu dis, Kadosh Baruch Hu a commencé par créer des mondes qui ne lui plaisent pas, ou tu dis, si le monde qui ne lui plaise pas, parce que c'est des mondes qui ont été créés prématurément. Le monde, il devait pas être créé plus tôt. Si on le crée plus tôt, ça marche pas. C'est ce qui serait dit ici pour Rabbi Abaou, n'est-ce pas? Rabbi Abaou, il dit, si on l'avait créé plus tôt, ben, ça aurait pas été bien, puisque c'est bien seulement parce qu'il l'a créé au bon moment. Oui, okay. Pour l'instant, on a l'impression qu'Hachem crée des choses qui ne lui plaisent pas, finalement, donc qui, ultimement, ne sont pas, sont pas gardées, en tout cas. Alors, le pshat de Et à kol asher asa yafé be'ito, il pose un petit problème. Parce que nous considérons que le temps lui aussi a été créé. Donc dire ça a été créé au bon moment, c'est comme si le temps existait déjà et on a créé quelque chose qui vient se placer dans un temps déjà existant. Mais si tu dis que le temps lui aussi a été créé, alors ça marche pas. Donc formellement, c'est un peu problématique de dire que quelque chose a été créé au bon moment. L'expression en général, et à kol asa yafé be'ito, veut dire que les choses ont un temps. Indépendamment maintenant de l'utilisation de ce verset de Kohelet par rapport à la un autre verset de Bereshit, mais en général, Kohelet, il n'a pas parlé pour Bereshit, c'est Rabbi Tanhuma qui utilise le verset de Kohelet ici. Et on parle ici que à Kol, chaque chose a un temps. Un temps ce que dit Kohelet par ailleurs aussi, il y a un temps pour ceci, un temps pour cela, un temps pour rire, un temps pour pleurer, etc. Ça veut dire que les choses sont pas simplement distribuées comme ça au hasard dans le temps. Les choses, elles ont une espèce de temps propre quelque part, qui est le temps qui convient vraiment bien. Oui, le temps où cette chose-là joue parfaitement son rôle, par exemple. Vous voulez parler en termes d'harmonie. D'accord? Ça veut dire, c'est comme vous avez un morceau de musique qui dit, ben, à ce moment-là, ici, je mettrais bien un peu de trompette, quoi. Ici, il faudrait un peu de trompette. Et là, un peu de violon, je dirais. Voilà. Ce sont des choses, on comprend. Même qu'on va dire, ben ici, je mettrais bien encore un peu plus de tel ou tel condiment, etc. Là, voilà. Le faire à ce moment-là, c'est bien. Et à un autre moment, non. Cette même chose, ça veut dire que les choses ne sont, d'après ça, d'après Kohelet, les choses ne sont pas bonnes ou mauvaises en elles-mêmes. Les choses sont bonnes ou mauvaises à un certain moment. Ça, dans la vie, c'est très clair. Je veux dire, c'est très clair qu'il y a des moments, par exemple, où il faut dire quelque chose à quelqu'un, mais à un autre moment, il faut pas lui dire. Les gens ont besoin d'entendre quelque chose dans cette situation, mais pas dans une autre situation. C'est tout un art, savoir-faire, un chokhma, de faire les choses au bon moment.
Mais après, il faut qu'elle vive au bon moment.
C'est de ça qu'on parle. Bon
Oui,
moment, c'est bon moment.
ça, au début, à chaque fois, c'est dire, après le monde, on est là.
Mais si vous êtes là maintenant, c'est que c'est le bon moment.
Peut-être tout réussir.
Pardon?
Logiquement, peut-être tout réussir.
Oui, c'est fait pour réussir. Ça veut dire on a les éléments pour réussir. Enfin, on a les éléments pour jouer le rôle qu'on a à jouer. Il arrive qu'on dise sur certains tsadikim, dit, bon, c'est quelqu'un, il est à un niveau d'une génération bien, génération précédente, bon, bien deux, trois générations en arrière. Mais puisque Hachem l'a mis ici, ça veut dire que effectivement, c'est quelqu'un de cette génération-là, mais dont la place pour la génération et pour lui, c'était de le mettre ici. Même s'il a les qualités qui auraient fait de lui quelqu'un de tout à fait acceptable dans une autre génération. C'est le deuxième point. Donc on a vu un petit peu la progression, si progression, enfin le changement, parce que ça n'a pas l'air d'aller vraiment obligatoirement dans le bon sens. Parce que j'avais une explication où il y a la part d'Hachem et la part des hommes, et puis maintenant on est revenu sur entièrement à HM, quoi. Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on a vraiment avancé là? Troisième chose, d'avoir acher, toujours autre chose, toujours notre pasouk, Vayar Elohim et kol asher asa v'hineh tov me'od. C'est Rabbi Yochanan qui parle. Alors c'est un peu plus long, parce qu'il y en a d'autres aussi qui vont parler. Alors il amène un pasouk. Melech Bassar Vadam. Non, d'abord il dit comme ça. C'est pas un pasouk. Melech Bassar Vadam. Un roi de chair et de sang. Bonnet platine. Il construit un palais. Mabit Ba'elyonim. Riya Achat. Ou Betartonim Riya Achat. Alors il voit séparément le haut et le bas. Il n'est pas capable de voir en même temps le haut et le bas. Avala Kadosh Baruch Hu mabit ba'elyonim ou betachtonim riyachat. Mais Hachem, il voit les étages du haut du palais et les étages du bas en même temps. Voilà. Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan a dit. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Alors, vous savez, la paire Rabbi Yochanan Rish Lakish, Rabbi Shimon ben Lakish, c'est une paire standard. Rish Lakish, c'est le beau-frère de Rabbi Yochanan. Au départ, il est son élève, après, il devient son collègue. Et après, ça finit de façon tragique. Alors, Rabbi Shimon ben Yochai, il dit, Hine tov meod, ze haolam hazeh. Ve hine tov meod, avec le vav, ze olam haba. D'accord? Hine tov meod, ce n'aurait été que olam hazeh. Ve hine tov meod, ze olam haba. Haolam hazeh ve haolam haba, Ibid Bahen Akadosh Baruchu Riyah Achat. L'un et l'autre, Akadosh Baruchu les voit du même coup d'œil. Donc, il dit quelque chose qui ressemble à Rabbi Yochanan. Mais il ne prend que le côté du texte. Il dit Vehine Tov Meod directement. Il dit ce vav-là, on n'a pas besoin de lui. La phrase, elle n'était pas incomplète si elle n'était que Vayar Elohim et Kol Asher Asa, Hine Tov Meod. Quoi, Vehine, et voici. Oh, voici. C'est super. Et encore Rabbi Shimon ben Lakish, toujours le même. Cette fois-ci, il parle au nom de Rabbi Elazar ben Azaria. Alors ça, il faut comprendre. Resh Lakish qui parle au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, ils ne sont pas du tout contemporains. Alors Rabbi Elazar ben Azaria, c'est un Tana. Resh Lakish, c'est un Amora. Resh Lakish, c'est un maître de la Gemara. Et Rabbi Elazar ben Azaria, c'est un maître de la Mishnah. Mais il a un enseignement qui vient de Rabbi Elazar ben Azaria. On ne sait pas par qui il a passé pour arriver chez lui. Il ne peut pas l'avoir entendu en direct. Ils ne sont pas du tout contemporains. Mais bon, il a un enseignement qui vient. Et donc, il s'appuie sur un Tana. Quand un Amora s'appuie, cite un Tana, ça donne de la force à ce qu'il dit. Et il dit au nom de Rabbi Elazar ben Azaria, il cite un passouk du Navi Irmiya. Le Navi dit comme ça: Aho Hashem Elokim, Hine ata asita et hashamayim et haaretz, bechochacha gadol ubizroacha netuya, lo yipale mimcha kol davar. Meota sha'a lo yipale mimcha kol davar. Alors, on ne sait pas très bien ce que. On est dans les problèmes de temps. Voir les choses d'un seul coup d'œil ou en deux temps, ce n'est pas du tout la même chose. Lui, il dit. Le Navi, il dit, Oh Hachem, voilà, il est comme quelque chose de nouveau. Ata asita ta shamayim et ta'aretz bechochacha gadol bizroacha netuya. Tu as fait le ciel et la terre par ta grande force et avec ton bras étendu. Donc, avec des nissim, ça veut dire des miracles. Rien n'est impossible pour toi. Alors, on traduit, le Navi l'a construit. Il dit, c'est comme s'il disait, puisque tu as créé, et tu as tout créé de façon miraculeuse, alors rien n'est impossible pour toi. Ça veut dire, mais otasha'a, dit le Midrash. À partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir de la création de toute chose de façon extraordinaire, rien n'est impossible pour toi. C'est toujours, mais otasha, depuis ce moment-là, comme si avant, avant, n'en sais rien, si tu es capable, est-ce qu'avant tu pouvais faire ce que tu voulais? On n'en sait rien. Mais ici, maintenant, on sait que tu peux faire ce que tu veux puisque tu as créé le ciel, la terre, etc. Chagai, Beshem Rabbi Yitzhak Amar, et là, lui, il cite un passouk de chez toi, là. Alors, Chagai, il cite un passouk de Divrei Hayamim, de la dernière partie du Tanakh, oui. Divrei Hayamim, c'est En français, on appelle ça les chroniques. Ve'ata Shlomo béni. Donc, dans ce texte, c'est David qui parle à son fils Shlomo et lui dit, et toi, Shlomo, mon fils, da et Eloke avicha, connais le Dieu de ton père, ve'avdehu, et sers-le, ve'lev shalem, avec un cœur entier, ou benefesh chafetza, et avec un fort désir de le faire, qui levavot doresh Hashem, Hashem sonde tous les cœurs, mevin, et il comprend, il connaît tous les embryons de pensée, en fait. Kodem, avant, Adchelo Notsra Marshava, Belibosh El Adam, Kvari Gluya Lefanecha. Avant même qu'une pensée soit créée dans le cœur de l'homme, elle est déjà connue devant toi, devant Hachem. Rav Yudan Beshem Rav Yitzhak. Rav Yudan dit au nom de Rav Yitzhak, Kodem, avant, Hachelon Notsar, Yitzur, avant que ne soit formé tout être, Kvar Marshavto Gluya Lefanecha. Même les pensées qu'il va avoir sont connues par Hachem. Amar Rav Yudan Legarmé. Lui, il a cité, pour lui, il a cité un passouk de Tehilim. Ki ein mila bilshoni, hen Hashem yadata kula, kodem ad shelo yeros leshono dibur, kvar hen Hashem yadata kula. Donc pour lui-même, Rabbi Yudan, parce qu'avant il a parlé au nom de Rabbi Yitzhak, c'est le même, qui avait dit avant même que tout être soit créé, tu connais ça, ce qu'il va penser. Ça, il l'a dit au nom de son maître, Rabbi Yitzhak, au nom de Rabbi Yitzhak. Maintenant, quant à lui, pour lui-même, lui, il a construit à partir, non pas de ce qui avait déjà été dit, mais à partir des Tehillim, qui dit que, Ein mila bilshoni, il n'y a pas de mot dans ma langue pour le dire. Ein Hashem yadata kula, tu sais tout. D'une certaine manière, je n'ai pas besoin de le dire, il n'y a pas de mot que j'ai besoin de dire, puisque tu sais tout avant que je ne parle. Kodem ad sheiros leshono, avant que la langue se mette en place pour parler. Kvaren Hashem yadata kula. Hashem, tu savais déjà tout. Donc on a un long paragraphe, beaucoup plus long que les autres, avec plusieurs intervenants, avec une suite de choses qui ont l'air d'enseignements qui ont l'air d'aller bien dans un sens, là, on ne voit pas très bien comment, qu'est-ce qu'ils veulent expliquer? Qu'est-ce qu'ils veulent expliquer? Quelle partie de notre verset veulent-ils expliquer? Alors, on va le reprendre un peu dans le détail parce que sinon, on n'y comprend rien. Bien. Alors, ça commence par Rabbi Yohanan, qui avait dit que quand un roi de chair et de sang construit un palais, et quand il regarde les choses, il peut pas tout voir à la fois. Il voit ou bien la partie du haut ou la partie du bas. Dans son regard, il peut pas embrasser la totalité de son palais. Alors que Akadosh Baruch Hu, lui, il peut le faire. Il a créé un monde et c'est construit sur Vayar Elohim et Kol Asher Asa. Il a vu tout ce qu'il avait fait, il a pu le voir d'un seul regard. Bon. Donc, la première chose, c'est que c'est complètement différent quand vous voyez les choses dans le détail ou quand vous voyez l'ensemble. Bon. Vous avez une vue beaucoup plus claire des choses quand vous voyez l'ensemble. Les choses réagissent les unes par rapport aux autres. Alors évidemment que si vous voyez l'ensemble, vous pouvez, si vous décidez de regarder dans le détail les différentes parties, mais l'important c'est de... Lui, il a une vision supérieure parce qu'il peut aussi voir l'ensemble. Donc ici, Rabbi Yochanan, il s'arrête sur le verset, sur le fait que Hachem a vu Kol Asher, donc il travaille sur le Kol. Il a vu tout ce qu'il avait fait. Là-dessus, Resh Lakish a dit, toi tu parles sur le col, moi je regarde le Hineh Tov Meod, et je vois qu'au lieu de d'écrire Hineh Tov Meod, c'est marqué Vehineh Tov Meod. Et donc, ça veut dire que quand Hachem a vu, quand on dit qu'il a vu tout ce qu'il avait fait, il a vu Olam Hazeh et Olam Haba.
Un peu comme on dit à la Gada, bon, dans la Gada, à l'État, on dit non, on va dans le monde du non, il joue à la nuit, qu'est-ce que ça fait pendant le jour à
Ah,
la
ça
nuit.
c'est le... Oui. Donc, qu'est-ce que Resh Lakish, je veux dire? A priori, quand on nous décrit ce qu'Hachem a créé, d'accord? Bon, il a créé ce qui s'appelle Olam Hazeh. Et donc, il est en train, Resh Lakish est en train de dire que le Olam Hazeh, bon, c'est ce qui, ça, c'est la partie qui est vite, très facilement visible, mais Hachem, quand il dit que c'est Tov Meod, il est Tov Meod, il est Tov Meod, ça voudrait dire, bon, je vois le monde, il est très bien, c'est super bien ce que j'ai créé. Mais, en fait, c'est écrit Vehineh Tov Meod, c'est-à-dire, en fait, le Vav, il est aussi Tov Meod, ça veut dire ce qui vient avec Olam Hazeh. C'est-à-dire que quand Hachem a créé ce monde-ci, il a aussi créé le monde d'après, qui lui est un monde qui vient après celui-ci. Un monde qui vient comme conséquence, d'une certaine manière, de ce qu'il a créé. Donc, quelque part, a vu Hachem, quand il a regardé, il a aussi vu, dit Resh Lakish, il a vu toutes les conséquences, c'est-à-dire tout le monde qui suit, qui est le vœu, qui est, ôté, ce monde-ci est le monde à venir, qui est un monde qui est consécutif, si on peut parler comme ça, puisque, en fait, on a dans ce monde à venir que ce qu'on a construit, travaillé dans ce monde-ci. Alors, c'est intéressant parce que si vous regardez, par exemple, Mesilat Yesharim, il dit que, en fait, ce qu'Hachem a créé, c'est Olam Haba. C'est-à-dire, il a créé un monde pour qu'on soit proche de lui. Mais pour qu'on soit vraiment proche de lui, il faut qu'on se qualifie pour entrer dans ce monde. Donc, dans Messiat Yesharim, c'est plutôt Olam Haba qui, en fait, nécessite un Olam Hazeh pour se qualifier. Donc, quelque part, on pourrait dire, le Olam Hazeh n'est qu'une conséquence, si on peut parler du Olam Haba. Le projet divin, c'est Olam Haba. Et Olam Hazeh, c'est le moyen d'accéder au projet divin. Ici, dans Resh Lakish, il dit non. Hachem a créé ce monde-ci et il a aussi vu que le monde à venir, qui est raccroché en quelque sorte à ce monde-ci, il a aussi vu qu'il était Tov Meod. Mais c'est très bien, etc. Alors, pour mettre les deux choses, les deux opinions un peu d'accord, en fait, c'est-à-dire, il est clair que ce qu'Hachem voulait, enfin veut, c'est nous donner Olam Haba. C'est clair que Hachem veut donner. Mais que, on a déjà expliqué souvent, il y a une notion qui s'appelle Naamad et Kisufa, vous vous souvenez, le fameux pain de la honte, qui est que quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous lui donnez, mais le fait de le mettre dans la situation de recevoir gratuitement, si on peut parler comme ça le met mal à l'aise. D'accord? Et donc, c'est le fameux pain de la honte. Tu lui donnes à manger. Alors, c'est vrai qu'il va être nourri, les calories, il les aura, mais il est un peu, tu le tues. Suivant comment tu le donnes, tu peux vraiment complètement le tuer. Tu l'auras donné à manger, mais il est mort. Spirituellement, il est mort parce qu'il peut plus se regarder dans une glace parce que c'est insupportable pour lui de devoir recevoir gratuitement. Alors, pour que nous ne recevions pas les choses gratuitement d'Hachem, Hachem a fait en sorte que ce que nous allons recevoir, nous le recevions en tant que salaire. Et donc, il nous a dit, voilà, tu vas travailler, tu auras un salaire, et quand ce que tu reçois, c'est un salaire, alors tu n'es pas humilié par le fait de recevoir. C'est le fruit de mon travail. Tout travail mérite salaire. Donc, c'est normal que je reçoive. Ça ne m'écrase pas de recevoir un salaire. Je suis pas dans la position de recevoir gratuitement.
Mais tout le monde attend bien là-bas.
Pardon?
Tout le monde attend bien là-bas.
Alors, tout le monde a Olam Haba, sauf qu'on peut le perdre. Ça, tu l'as perdu. C'est possible. Mais quand Israël, Yesh Lahem Chelek le'Olam Haba, mais ensuite, voilà ceux qui ont perdu Olam Haba. Il y a une liste dans la Gemara de ceux qui ont perdu le Olam Haba parce qu'il y a des comportements qui font perdre Olam Haba. Par exemple, il y a un comportement qui est de celui qui est Poresh Min HaTzibour dans une situation difficile. Celui qui considère qu'il n'est pas concerné par la guerre qu'on fait là-bas au Congo. Moi, je fais ce que je veux, je suis pas concerné du tout. Celui-là, il est poresh, il porte pas avec le tzibour. Celui-là, il perd Olam Haba. Rambam dit comme ça.
Olamazé a une finalité en soi.
Le Olam Haba, non, Olam Hazeh, il n'a pas de finalité en soi.
Mais
Il est là, pardon, oui.
alors, non, mais en fait, il pourrait juste clarifier entre aussi ce monde qui doit arriver à autre chose aussi. Et puis, est-ce que ça se recoupe? C'est
Non,
plus simple.
le Olam Haba, il a une finalité, sa finalité, c'est lui-même.
Mais les temps messianiques, c'est encore de ce monde-ci, puis qu'on
Non,
arrive
mais
à.
temps messianique, c'est avant Olam Haba.
Alors.
D'abord, on passe d'abord par les temps messianiques et après Olam Haba. Olam Haba, c'est le monde de la récompense. Il n'y a plus rien à faire. Dans les temps messianiques, il y a encore un petit peu quelque chose à faire.
Et après, dans Olam Haba, ça veut dire que les deux autres n'existent plus. Il n'y a plus place. Les deux autres mondes n'existent plus, les temps
L'eau,
messianiques ne
il n'y en
sont
a
plus.
qu'un seul avant. Olam Hazeh.
Oui, mais les mondes messianiques, c'est pas un monde à part.
Non, c'est les temps messianiques, c'est un temps de ce
Dans Olam
monde-ci.
Haba, il y a
Dans Olam Hazeh, à la fin d'Olam Hazeh, il y a ce qui s'appelle les temps messianiques.
La fonction de ramasse, je ne sais pas, de cette fonction de forêt, ça concerne peut-être aussi tous les gens qui continuent momentanément, parce que momentanément, quand on continue à vivre et qu'on n'est pas dans le lien,
Non, c'est quand tu te considères, tu ne souffres pas avec le tzibour, tu ne te réjouis pas avec le tzibour, certaines manières, ben, ta parole à Lamaba, parce que Lamaba, c'est justement être avec les autres aussi. Il y a des moments où on ne peut pas, il peut y avoir des situations où je suis obligé de me mettre à l'écart pour parce que à cause de la contagion, de la maladie ou je sais pas quoi. Mais dans ma tête, je suis avec eux quand même.
Par exemple, c'est pas un enfant caché pendant la Shoah dans un
Un
internat
couvent,
catholique,
ouais.
dans un couvent.
Un
Lui,
bébé,
il
pas rien du tout.
n'est pas du tout porèche,
Non, non,
il est
pas du
sûr
tout. C'est
qu'il est.
pareil, c'est quelqu'un qui décide que il ne participe pas avec le tzibour à la souffrance du tzibour. Il ne prend pas sa part. Il a. Oui, il pense. Ouais. Même s'il n'est pas tout à fait seul, parce qu'il peut peut-être être avec d'autres qui eux non plus ne participent pas.
C'est avec parfois une complémentarité, une part de moi dans l'autre, que je me reconnais dans l'autre. Il existe seul, ce personnage, je pense qu'il existe seul.
Oui, bah, oui.
Le,
Pense qu'il n'a pas besoin des autres, quoi. Donc,
tandis que vous, le club est important, l'autre est important. Est-ce que je vois
bien sûr, si.
le problème, c'est là où on travaille pour avoir un salaire.
Oui.
Tandis que tout le
On,
monde.
en fait, on doit, en vérité, on a un salaire. De façon idéale, on ne travaille pas pour avoir le salaire, mais on sait qu'on a un salaire.
On a quelque chose à faire. On ne travaille pas pour avoir le salaire, mais
On travaille par amour pour Hachem, ou par crainte d'Hachem, ou pour avoir un salaire, ou pour avoir une récompense. Bon, la motivation, elle peut être diverse.
la logique de mon existence. Je dois être juste dans mon existence. Je dois faire les commandements d'Hachem.
Oui, ça, on n'a pas, ça, c'est, tout le monde doit faire ça.
Oui. Mais est-ce que c'est parce que le salaire, tu ne vois pas comme quelque chose en plus, mais c'est comme quelque
Non, mais
chose.
un salaire, c'est simplement parce que vous avez fait votre travail, même si vous avez fait votre travail parce que de façon évidente. Vous avez un salaire quand même. Le travail a été fait, le travail mérite salaire, c'est tout. Donc, on a Rabbi Yochanan qui dit, ben la spécificité, c'est lui, Hashkadosh Baruch Hu, il pouvait tout voir, tout à la fois. Donc, il peut vraiment dire, Kol Asher Asa. Reish Lakish dit, en vérité, c'est même plus que ce que tu crois. Parce que c'est vériné et pas inné seulement. C'est-à-dire que, bien sûr, Hachem a créé ce qui nous est décrit dans le texte, dont le passouk ici est le couronnement, c'est le dernier morceau du texte de Maaseh Bereshit. Alors, il parle de ce monde-ci qui a été créé. Et Reish Lakish dit oui, mais dans cette façon de voir la totalité dont tu parlais, toi, le en haut et l'en bas, ça veut dire qu'il voit non seulement l'en haut et le bas, les choses qui sont toutes les deux là, mais il voit aussi quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui va venir. C'est Olam Haba. Haba comme conséquence de Olam Hazeh. Ça, c'est ce que dit Reish Lakish par réponse, en quelque sorte, à ce qu'a dit son beau-frère. Ensuite, Reish Lakish, il ramène un enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria. Et ce Rabbi Elazar ben Azaria, lui, il a dit quelque chose à partir de ce fameux passouk dans Jérémie, dans Yirmiya, qui dit que, en fait, que c'est quelque chose qui s'entend comme, puisque tu as créé le ciel et la terre, avec ta force extraordinaire et ton bras étendu, etc., alors rien ne t'est impossible. Loi palé mimcha davar, il n'y a rien qui est palé, qui est palé, c'est pelé, c'est impossible. Enfin oui, pelé, ça veut dire étonnant, très étonnant, super étonnant. Mais donc, le verset, il est construit avec puisque tu as créé tout ça, alors rien n'était impossible. Mais otasha'a, c'est-à-dire à partir du moment où tu as créé le monde, alors rien n'était impossible. Ça, c'est ce que Rabbi Elazar ben Azaria a dit, et c'est Reish Lakish qui ramène ce passouk. Alors, cet enseignement, qu'est-ce qu'il vient de nous dire là? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre sujet?
Le passé et le futur en même temps, le présent et le futur, les deux choses en même temps.
Oui, c'est pas en même temps, c'est Meotasha'a Loipale Mukranavar. Puisque tu as fait ça, alors rien ne t'est impossible.
J'ai entendu que s'il n'y avait pas ça, on n'aurait pas pu.
Alors, c'est ça, peut-être que Reish Lakish veut dire, d'accord, ça veut dire rien n'était impossible, et c'est ça le Tov Meod. Tov Meod, parce que quand je vois tout ce que j'aime voir, c'est quoi? Lui-même. Et donc, nous, on comprend que puisque tu as tout fait, c'est Tov Meod, c'est super bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien n'est impossible, dès lors.
Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi
Ben, si c'est lui le créateur, donc tout ce qui est, c'est le fruit d'Hachem, donc il peut faire ce qu'il veut.
le fait d'avoir fait le ciel et la terre, il y a peut-être autre chose, c'est la garantie qu'il peut tout faire.
Oui, non, c'est oui.
Mais pourquoi?
Parce qu'il a tout créé. Il n'y a rien qui n'est pas créé.
Le
Donc,
ciel et
il peut
la
faire avec ça tout ce qu'il veut. Le ciel, la terre, ça veut dire tout.
terre. Parce qu'il a créé, alors c'est bon.
Oui, c'est assez. C'est un Vehine Tov Meod. Pourquoi? Parce qu'il a vu les choses. Pourquoi on ne dit pas les choses sont bien, même s'il ne les avait pas vues, en fait, même s'il n'avait pas regardé, c'est bien. Automatiquement, puisque c'est Hachem qui l'a fait. Pourquoi on a besoin de tout ce verset-là? D'abord, premièrement, à chaque phase, il a dit que c'était bien. Et maintenant, il recommence, il regarde le tout. Bon, alors c'est vrai, il a une vue d'ensemble, comme dit Rabbi Yochanan, et il voit le haut et le bas en même temps. Et du coup, Tov Meod, pas seulement Tov, mais Tov Meod. Le Gaon de Vilna, il dit que quand la Torah se marquait Meod, ça veut dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer.
Vous avez une fois que Méode devient mal quand il est rassé autour de
Non, il va y avoir une lecture qui va dire que Tov Meod, c'est la mort. Ça voulait dire,
Méode?
ça va venir.
Voilà.
Ça, je vous rassure, ça va venir.
Donc, La chaîne n'aurait pas vu les choses une fois créées, elle aurait quand même été dans le monde, mais du fait qu'il les voit,
Je voulais de dire qu'Hachem a, il a regardé, vu tout à la fois. C'est ça, cette idée que puisque tu as tout créé à la fois, alors rien n'était impossible. S'il n'avait pas tout regardé à la fois, on n'aurait pas eu cette implication. Puisque tu as tout créé, alors rien n'était impossible. C'est vrai que rien n'est impossible à Hachem, mais ce que dit le Navi, ce que dit le prophète Irmiya, c'est que puisque maintenant tu as regardé tout ça à la fois, donc tu as pris conscience, donc nous on a pris conscience parce que tu le dis, d'accord, que tu as tout créé à la fois, pas à la fois, mais tu as tout créé, tout. Et donc, tout est possible. Rien n'était impossible à toi. Alors, pourquoi est-ce que, qu'est-ce que ça ajoute vraiment à ce qu'avait dit Rish Lakish? C'est possible de, c'est possible que Rish Lakish, il dit ça parce que ça vient à l'appui de ce qu'il a dit. Il a dit que, il avait dit que si c'était marqué seulement Iné Tov Meot, on aurait su seulement Olam Hazeh. Parce que, pourquoi? Parce que, Akadosh Baruch Hu, son regard, quand on dit qu'il a tout fait, ben c'est Olam Hazeh. Bon, il y a rien marqué dans la Torah qui fasse allusion de quelconque manière dans le récit de Bereshit à Olam Haba. Il n'y a rien de, quand, sur Olam Haba, il y a rien, dans Maaseh Bereshit, il n'y a rien sur Olam Haba. Et Rish Lakish dit pourtant, alors on peut se demander, mais de quel droit ou de quelle manière est-ce que tu trouves aussi veiné d'où il vient ce Olam Haba? Alors il vient de ce que rien n'est impossible à partir du moment où tu as créé ça. C'est la lecture qu'a faite Rabbi Elazar ben Azaria. Donc, Rish Lakish, il dit, il a, si, je vous ai dit tout de suite, quand un Amora apporte un Tana, c'est pour se renforcer sa position. Il dit, si tu me demandes là, d'où j'ai sorti de, comme un lapin de mon chapeau, le Olam Haba dans cette affaire-là, alors qu'on parle pas du Olam Haba, ah, j'ai Rabbi Elazar ben Azaria. Nazaria, il a dit, rien n'est impossible. Pourquoi? Parce que tu as créé, parce que tu as fait tout ça, et qu'on a vu ta puissance avec Zroa Netouya, avec Kochacha Gadol, ta grande force, ton bras étendu, c'est-à-dire, là, on a vu la toute-puissance d'Hachem, alors rien n'est impossible. Donc, effectivement, le Olam Haba, il va bien découler, si on peut parler, du Olam Hazeh. Dans cette création de Olam Hazeh, ça fait, il y a Olam Haba aussi. Mais sinon, si on n'a pas la preuve de Rabbi Elazar ben Azaria, on peut dire, bon, qui te dit? D'accord, oui ou non, mais, d'accord, tu dis que ça, le Veiné inclut aussi Olam Haba, mais d'où est-ce qu'on voit ça?
Un monde, il y a tout ce qui est dans ce monde, il y a tout ce qu'il faut pour l'autre monde.
Mais ça, c'est seulement si vous savez qu'il y a un autre monde et qui a vu ça. Rabbi Elazar ben Azaria a compris que il a compris du passouk de la construction du passouk de Yirmiya, où Yirmiya justement dit justement, tu as tout créé, alors rien n'était impossible.
Il a tous les potentiels là. Il a tous les potentiels possibles
Tout
qui sont là. Donc, il a tout.
est possible, et y compris Olam Haba.
Ça ne va pas être porté dans les potentiels de ce monde-là.
C'est les suites de ce monde. Il est entre, c'est pas dans ce monde-ci, mais il est dans le, il est Olamaba, et là, parce que le Olamazé, parce que quand Hachem a créé l'Olamazé, il s'est aperçu qu'il y a un vehiné, c'est-à-dire, je vous ai dit, hiné, c'est quand quelque chose de nouveau apparaît. Et ici, il y a un vrai nouveau. C'est pas simplement, il y a une totalité, il y a la totalité que maintenant il la voit, cette totalité, mais il y a cette totalité plus quelque chose d'autre qu'on n'attend pas. C'est quoi? C'est Olam Haba. Avant quoi? On est au tout début, hein, ici. C'est un passouk sur la fin de la, enfin, sur la création. Donc, oui, où tu vois ça? Tant qu'il n'a pas tout créé, le ciel, la terre et tout ça. Et ça, c'est pas marqué dans la Torah. Bon, alors ça c'est le point d'appui pour Rish Lakish à partir du Tana Rabbi Elazar ben Azaria. Et ensuite, Rav Chagai, il parle d'autre chose. Tout à coup, il parle des conseils de David à son fils Shlomo. Et il lui dit, tu dois connaître le Dieu de ton père et sers-le de tout ton cœur et avec un grand désir. Parce que il faut que tu qu'il y aies tout ton cœur et tout ton désir. Parce qu'Hachem, il sait très bien, quand tu le sers, si tu le sers avec tout ton cœur, avec tout ton désir. Parce qu'Hachem, il est Doresh les Levavot. Il est Doresh, il sonde les cœurs. Et toutes les pensées, puis après il travaille, toutes les pensées, même avant les pensées, avant que tu existes, il connaît tes pensées avant même, avant tout, quoi. Ils connaissent, ils vont, il y a une espèce d'inflation là, c'est tout. Chacun dit un peu plus. Tes pensées, elles sont connues alors que tu n'existes même pas. Et donc, surtout, on a l'impression qu'il lui dit, surtout, t'imagines pas que tu peux faire les choses un peu superficiellement et tu vas rouler HM, tu vas faire les choses, mais tu t'investis pas vraiment dedans. Connais-le et sers-le vraiment, mais sers-le vraiment. Investis-toi ton cœur et ton désir. S'il n'y a pas ton cœur et ton désir, Hachem le saura et ça ira mal pour toi. C'est ce que David lui dit. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre passouk? Pardon? Oui, mais où est-ce que c'est écrit dans le... Qu'est-ce que ça a à voir avec notre passouk qui dit que Elohim a vu tout ce qu'il avait créé, mais il est tov me'od? Dans le passouk d'Ivayamim, qui est cité en premier, là, de Rav Chagai, au nom, quand il parle au nom de son Rabbi Yitzhak, il dit qui colle levavot doresh Hashem v'chol yetzer. Le mot yetzer ici, il n'est pas vraiment nécessaire. Il aurait pu dire v'chol marshavot mevin. Pourquoi il a mis ce mot yetzer? Yetzer, c'est la notion de formation, hein. Yetzer, c'est le formage. Donc c'est ça qu'ils utilisent ici pour dire que avant même que tu sois formé, avant que ta pensée soit formée, avant que toi-même tu sois formé comme corps, même avant là, il te connaît complètement, Hachem. Ça, ok. Donc ça c'est le pourquoi, comment elle va la dracha de Yetzer, etc. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre verset là? Ça veut dire que de même que Rish Lakish avait amené Rabbi Elazar ben Azaria pour dire que puisque tu as tout créé, alors rien n'est impossible. Alors rien n'est impossible si on continue. C'est comme ça. Comme c'est lui qui a créé. C'est Hachem le créateur. Donc comme il est le créateur, dans la même veine que ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Azaria, dans la même veine, puisqu'il est le créateur, alors il connaît les choses avant la création. Celui qui crée, il est avant la création pour pouvoir créer. Donc, avant même que tu sois créé, il sait exactement ce que tu vas penser. Et donc, c'est inclus de la même manière qu'on a dit que quand Hachem a vu que Kol Asher Asa, à ce moment-là, c'est Tov Me'od, d'accord? On a vu que c'était l'illustration de ce qu'a dit Rish Lakish. Rish Lakish a dit que c'est vrai que Hachem, ce qu'il a regardé, c'est seulement Olam Haba, Olam Hazeh, pardon. Mais à cause du Vehine, et voici quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que c'est la chose nouvelle? C'est Olam Haba. Et ça veut dire, et alors comment il peut y avoir Olam Haba à partir de Olam Hazeh? Rien n'est impossible. Tu as créé le ciel, tu as créé le monde, le ciel, la terre, etc., de façon absolument extraordinaire. Pas seulement tu as créé, mais de façon extraordinaire. D'accord? Alors, de la même manière, comme le pasouk dit, il est Yotzer, il est le formateur, alors de la même manière, tout ce qu'on peut déduire, tout ce qui existe, en fait, comme il en est le formateur, il le connaît. Hachem le connaît. Bon, c'est ça, Tov Me'od. Tov Me'od, ça veut dire, Vehine Tov Me'od, pardon, Vehine Tov Me'od, c'est inclus dans, et donc, tout est bien, ça veut dire, je connais les choses, non pas seulement ce que Assa, ce que la chair Assa, mais même au niveau de la Yetzira, au moment de la formation de la chose, je les connais déjà aussi, ces choses-là. Donc, ce paragraphe-là, il a l'air de mettre l'accent sur le fait que dans la création, quand on parle de la création, il y a plus que la création. Alors, la création, c'est ce qu'Hachem a fait, c'est Olam Hazeh, mais il y a plus. Il y a Olam Haba aussi, donc il y a tout ce qui est de l'ordre de la Yetzira que Hachem connaît parfaitement, avant même que les choses soient créées. Donc c'est ça le progrès qu'on a fait. Alors, pourquoi on a fait ce détour du deuxième paragraphe où on disait que tout, ça concerne que Elohim? Ici aussi, on est en train de parler de Elohim, quoi, finalement. Bon, c'est que Elohim, c'est tout et avant que les choses soient, etc. C'est, Vehineh Tov Me'od, c'est fabuleux, quoi. Ce qui nous aide. Alors, on pourrait dire, quand on dit Aster sur ce qui concerne Elohim, Aster Panim, Aster Davar, il faut cacher les choses parce qu'en vérité, il en sait tellement plus, il y en a tellement plus que ce qu'on croit, que si tu tiens simplement à lire les choses comme elles sont écrites, tu comprends rien du tout. Donc il faut cacher, mais il cache, mais il dévoile ici, mais ça arrive des fois que cache. Rashi au début de l'Ech Lecha, ce qu'on va lire. Rashi dénonce, marqué que dans la Torah, On n'a pas voulu dire qu'Abraham Avinu, il a abandonné Terach, alors que Terach était un vieillard et qu'il est parti. Alors on a le passou qui, il a mis les choses comme si le Lech Lecha était postérieur au fait qu'il est parti, après la mort seulement. Mais en vérité, comme dit Rashi, quand tu fais les comptes, tu vois très bien que c'est pas comme ça. D'accord? Pourquoi Rashi l'a dévoilé? C'est pas sûr qu'il voulait pas le, la Torah, elle voulait pas le dire. Alors Rashi l'a vendu la mèche.
Donc, apparemment, c'est évident. Si Rachel fait des comptes, on peut les faire aussi. C'est juste des comptes.
Si la Torah, elle a écrit comme ça, elle pensait que tout le monde va faire les comptes. Les gens, ils vont. C'est bon, ça, bien sûr.
Sur la Torah, Hachem, il veut pas qu'on croit comme ça.
Elle veut.